L'aurore naissante de Jacob Boehme, traduite par Louis-Claude de Saint-Martin. Chapitre 24e. De la compaction des étoiles. Lorsque le corps entier de la nature dans l'espace de ce monde fut engourdi, comme dans une puissante mort, et que cependant la vie était cachée en lui, alors Dieu mit en mouvement le corps entier de la nature de ce monde au quatrième jour, et engendra de la nature de la lumière qui était en ascension, les étoiles. Car la roue de la génération divine se mut de nouveau, comme elle avait fait de toute éternité. Il s'était bien mu, il est vrai, au premier jour, et il avait commencé l'engendrement dans le corps de la nature corrompue. C'est pourquoi, au premier jour, la vie se sépara de la mort. Au second jour, il y eut entre elles un firmament de créer. Et au troisième jour, la vie perça au travers des ténèbres et rendit le corps mort de la nature fleurissant, immobile. En effet, au troisième jour, le corps de la nature s'angoissa fortement, au point que le feu de l'amour s'alluma dans la mort, et que la lumière de la vie perça au travers du corps congelé de la mort, et fleurit du sein de la mort. Mais au troisième jour, elle était restée seulement dans l'explosion du feu, d'où est résultée la mobilité. Or, au quatrième jour, la lumière a fait son ascension et a établi son siège dans la maison de la mort. Cependant, la mort ne la pouvait pas atteindre. De même que l'âpre génération de Dieu, qui réside dans le noyau le plus intérieur et d'où la vie résulte, ne peut pas atteindre la douceur ni la lumière de la douceur, non plus que l'esprit qui est dans la douceur. De même, les ténèbres mortes de ce monde, non plus qu'aucun démon, ne peuvent atteindre la lumière de la nature. Mais la lumière brille au travers de la mort, et elle a établi son siège royal au milieu, dans la maison de la mort et de la colère de Dieu. Et elle s'engendre, de la maison de la colère, un nouveau corps de Dieu qui subsiste éternellement dans l'amour de Dieu, mais est insaisissable à l'ancien corps enflammé dans l'engendrement le plus extérieur. Maintenant vous demanderez, comment puis-je entendre ceci? Je ne peux pas du tout l'écrire dans votre cœur, car cela n'appartient point à l'intelligence et à la capacité de chacun, particulièrement de ceux dont l'esprit demeure dans la maison de la colère. Ils n'en qualifient point avec la lumière de Dieu. Mais je veux vous le présenter dans une comparaison terrestre, afin que vous puissiez entrer un peu dans le sens profond. Voyez un arbre dont l'écorce extérieure est dure et grossière, comme morte et éteinte, et cependant n'est pas entièrement dans la mort, mais sans vigueur. Or, il y a une différence entre cette écorce et le corps qui croît sous l'écorce, car le corps a sa force vivante et perce au travers de l'écorce desséchée et s'engendre quantité de beaux jeunes bourgeons qui cependant tiennent tous à l'ancien corps. Mais l'écorce est comme un mort et ne peut pas atteindre la vie de l'arbre. Seulement, elle lui est suspendue. Elle est une couverture de l'arbre dans laquelle les vers se nichent et par ce moyen détruisent aussi à la fin l'arbre. Il en est de même de la maison entière de cet univers. Les ténèbres les plus extérieures sont la maison de la colère de Dieu dans laquelle demeurent les démons. Et c'est vraiment la maison de la mort, car la sainte lumière de Dieu y est morte. Entendez qu'elle est comprimée dans son principe, et il faut regarder comme morte la substantialité la plus extérieure en Dieu. Et cependant, dans Dieu, elle est vivante, mais dans une autre source. Mais le corps de cette grande maison, qui est caché sous l'écorce des ténèbres, sans être saisissable aux ténèbres, est la maison de la vie, dans laquelle l'amour et la colère combattent l'un contre l'autre. Or, l'amour perce sans cesse au travers de la maison de la mort, et engendre dans le grand arbre des branches saintes et célestes qui existent dans la lumière, car elles croissent au travers de l'écorce des ténèbres, comme les branches au travers de l'écorce de l'arbre, et n'ont qu'une même vie avec Dieu. Et sa colère croît aussi dans la maison des ténèbres, et retient par sa contagion plusieurs nobles branches prisonnières dans la mort, dans la maison de la fureur. Or, tel est le précis et le contenu de la génération sidérique sur laquelle je me propose d'écrire ici. Maintenant, on se demande, qu'est-ce que c'est que les étoiles? Ou bien, d'où sont-elles provenues? Elles sont les puissances des sept sources esprit de Dieu, car lorsque la colère de Dieu fut allumée par le démon dans ce monde, alors la maison entière de ce monde devint dans la nature, ou dans l'engendrement le plus extérieur, comme engourdie par la mort. De là sont provenues la terre et les pierres. Mais lorsque cette lie dure fut rassemblée en une masse, alors l'espace devint net, mais cependant tout à fait ténébreux, car la lumière y était morte dans la colère. Or, le corps de Dieu dans ce monde ne pouvait pas rester dans la mort, mais Dieu se mut avec ses sources esprit pour l'engendrement. Il vous faut entendre exactement ces choses profondes. La lumière de Dieu, qui est le Fils de Dieu, ne mourut pas, non plus que l'Esprit Saint, mais la lumière qui, de toute éternité, est sortie du cœur de Dieu et a éclairé la nature engendrée des sept esprits, s'éloigna de la nature fortement congelée. C'est par là que la nature de ce monde, avec sa saisissabilité, est demeurée dans la mort et ne peut pas atteindre la lumière de Dieu, mais est une demeure ténébreuse des démons. Après cela, Dieu, au quatrième jour de sa création, a renouvelé la maison entière de ce démon, ainsi que ses qualités, et a établi les sources esprits dans la maison des ténèbres, afin qu'il s'engendrât par là un nouveau corps pour sa louange et pour sa gloire. Car son dessein était de créer de cette maison une autre légion angélique, afin que cela pût s'opérer. Il voulut créer un ange, qui fut Adam, lequel devait engendrer de soi des créatures semblables, qui possédassent la maison de la nouvelle génération, et au milieu du temps, leur roi devait être engendré du corps d'un homme, et comme souverain de cette créature, posséder le nouveau royaume à la place de Lucifer, banni et rejeté. Lorsque ce temps aura été accompli, Dieu, en ornant cette maison de ses qualités, en eut fait une souveraineté royale. Il eut étendu ses sources esprits dans la maison entière, afin que dans la maison des ténèbres et de la mort, elle puisse de nouveau produire des créatures et des images, comme elle l'avait fait de toute éternité, jusqu'à ce que la légion entière des nouveaux anges créés, qui étaient les hommes, fût complète. Alors Dieu aurait renfermé le démon dans la maison des ténèbres, dans une étroite caverne, et allumé de nouveau, dans sa propre lumière, la maison entière excepté la caverne des démons. Maintenant, on se demande, pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas emprisonné aussitôt? Il n'aurait pas produit en deux mots. Voyez, Dieu avait un dessein qui devait subsister. C'était de se réédifier, de la nature corrompue de la terre, une légion angélique, c'est-à-dire un nouveau corps qui exista éternellement en Dieu. L'intention de Dieu n'était point du tout de donner la terre entière aux démons pour son éternelle demeure, mais seulement la mort et la colère de la terre que le démon y avait introduite. Car quel crime le sale Hitler de la terre avait-il commis devant Dieu pour qu'il restât entièrement dans une éternelle dégradation? Aucun. Il n'était autre chose qu'un corps qui devait demeurer inactif lorsque le démon y exhala son orgueil. Or, s'il eût dû à l'instant être cédé au démon pour son éternelle demeure, jamais un nouveau corps n'aurait pu être réédifié de ce même lieu. Quel crime avait donc commis ce même lieu devant Dieu, pour rester éternellement dans l'ignominie? Aucun. C'eût été une injustice. Mais le dessein de Dieu était de faire de la terre une belle légion angélique et de plus toute espèce de configuration, car tout devait de nouveau fleurir et s'engendrer d'elle, en elle, comme on le voit aux minéraux, aux pierres, aux arbres, aux plantes et à l'herbe, et à toute espèce d'animaux et d'images célestes. Et quoique ces configurations fussent passagères, puisqu'elles n'étaient pas pures devant Dieu, cependant, Dieu voulait à la fin de ce temps extraire le cœur et le noyau du nouveau réengendrement et les séparer de la mort et de la colère. Et le nouveau réengendrement devait pousser éternellement de ce lieu en Dieu et porter de nouveau des fruits célestes. Mais la mort de la terre et la colère qui y était liée devaient servir de demeure éternellement au souverain Lucifer après l'accomplissement du nouvel engendrement. En attendant, le souverain Lucifer devait être tenu prisonnier dans les ténèbres, dans l'espace au-dessus de la terre. C'est là où il est en effet à présent. Et maintenant, il peut s'attendre à subir bientôt son sort. Mais pour que ce nouvel engendrement puisse s'accomplir, quelle que fût la volonté du démon, le Créateur s'est engendré dans le corps de ce monde, comme créaturellement, dans ses sources esprit, et toutes les étoiles ne sont autre chose que les puissances de Dieu. Et le corps entier de ce monde existe dans les sept sources esprit. Mais qu'il y ait tant d'étoiles avec des opérations si multipliées, cela vient de l'infinité qui par un concours d'actions réciproques s'imprègne dans les sept esprits de Dieu et qui s'engendre sans fin. Quant à ce que la génération où le corps des étoiles ne change point dans son siège, conformément à ce qu'il a fait de toute éternité, cela signifie qu'il doit y avoir un engendrement permanent, par le moyen duquel le corps engourdi de la terre doit être allumé de nouveau dans une opération uniforme, mais cependant existante dans l'infinité, et s'engendrer de nouveau, aussi bien que la maison des profondes ténèbres au-dessus de la terre. Ainsi, le nouveau corps pouvait sans cesse être engendré de la mort jusqu'à ce que le temps fût accompli et que le corps entier eût pris naissance. Maintenant vous direz, si toutefois les étoiles sont Dieu, il faut donc les prier et les honorer comme Dieu. C'est aussi jusque-là que sont venus les sages païens, qui, à la vérité, par leur subtile intelligence, ont surpassé de beaucoup nos philosophes, mais la vraie porte de la connaissance leur est encore demeurée fermée. Voyez, les étoiles sont bien conglomérées par Dieu, mais il vous faut comprendre leur différence d'avec lui, car elles ne sont pas le cœur et la pure et douce divinité que l'on doit honorer et adorer comme Dieu, mais elles sont la génération la plus intérieure et la plus âpre dans laquelle tout est en lutte et en combat. À la vérité, le cœur de Dieu s'y engendre continuellement, et l'Esprit Saint s'y répand sans cesse par l'explosion de la vie. Mais la génération âpre des étoiles ne peut pas réatteindre le cœur de Dieu, non plus que l'Esprit Saint. Toutefois, la lumière de Dieu, qui s'élève dans l'angoisse par le concours du bouillonnement de l'Esprit Saint, demeure libre devant soi, comme le cœur, et règne au milieu, dans l'enceinte du ciel caché, qui provient de l'eau de la vie. Car c'est de ce même ciel que les étoiles ont reçu leur enflammement, et elles ne sont qu'un simple instrument que Dieu emploie pour l'engendrement. Il en est de cet engendrement comme dans l'homme. Le corps est aussi le père des étoiles, car l'âme est engendrée de la puissance du corps ou de la circonscription. Et quoique le corps soit dans la génération angoisseuse de Dieu comme les étoiles, s'il n'est pas dans l'engendrement furieux et infernal, alors l'âme de l'homme inqualifie avec la pure divinité comme un membre avec son corps. Ainsi, le cœur ou la lumière de Dieu est aussi engendrée sans cesse dans le corps de ce monde, et ce même cœur engendré ne fait qu'un cœur avec le cœur sans commencement et éternel de Dieu, qui, là, est dans et au-dessus de tous les cieux. Il n'est pas seulement engendré dans et des étoiles, mais dans le corps entier de ce monde. Or, les étoiles allument continuellement le corps de ce monde, en sorte que la génération a lieu partout. Mais ici, il vous faut bien observer cela. La lumière, ou le cœur de Dieu, ne prend pas uniquement et nûment son origine des étoiles âpres et grossières, où en effet l'amour et la colère sont l'un dans l'autre, mais du siège où l'eau suave de la vie est sans cesse engendrée, car cette même eau n'est pas atteinte par la mort dans l'enflammement de la colère, mais elle subsiste de toute éternité. Elle s'étend à tous les points de ce monde, et elle est l'eau de la vie qui perce au travers de la mort. C'est de là que le nouveau corps de Dieu est réédifié dans ce monde. Elle est aussi bien dans les étoiles que dans tous les autres points. Néanmoins, nulle part elle n'est saisissable et perceptible, mais elle remplit à la fois tout également. Elle est aussi dans le corps de l'homme, et quand il a soif de cette eau et qu'il en boit, alors la lumière de la vie, qui est le cœur de Dieu, s'allume en lui, et à l'instant, l'Esprit Saint s'y manifeste. Maintenant vous direz, comment donc les étoiles peuvent-elles subsister dans l'amour et la colère. Voyez, les étoiles sont sorties de la maison enflammée de la colère de Dieu, ce que la figure, la mobilité d'un enfant dans le sein de la mère au troisième mois. Mais elles ont reçu, alors, leur enflammement de la vie ou de l'eau éternelle, non engourdie, car dans la nature, cette eau n'a jamais été morte. Mais lorsque Dieu s'émut dans le corps de ce monde, alors, au troisième jour, l'angoisse s'est agitée dans l'engendrement de ce monde. De là est résulté l'éclair de feu et la lumière des étoiles s'est enflammée dans l'eau de la vie. Car jusqu'au troisième jour, depuis le temps de l'enflammement de la colère de Dieu dans ce monde, la nature a été dans l'angoisse de la vallée ténébreuse et est demeurée dans la mort. Mais au troisième jour, la vie a percé au travers de la mort et le nouvel engendrement a commencé. C'est aussi pendant ce même temps, et pas une heure de plus, que le roi nouveau-né et le grand prince de ce monde, Jésus-Christ, a reposé dans la mort et a engendré de nouveau, à la lumière, les trois premiers jours de la création de la nature, ainsi que ce même temps qui était dans la mort, et cela afin que ce temps devint de nouveau un seul temps avec le temps éternel, qu'il n'y eut pas entre eux un seul jour de mort, que l'éternel amour et l'amour nouveau-né du nouveau corps de la nature ne fussent qu'un seul et éternel amour, qu'il n'y eut aucune différence entre l'éternel amour et l'amour nouveau-né, mais que l'amour nouveau-né atteignit jusque dans l'être qui a été de toute éternité, et qu'il y demeura aussi lui-même pour l'éternité. Ainsi, l'amour nouveau-né, qui s'est élevé de l'eau de la vie dans les étoiles et dans le corps entier de ce monde, est lié avec l'amour éternel et sans commencement, afin qu'il n'y ait qu'un cœur et qu'un esprit qui porte et soutienne tout. Dans cet enflammement de la lumière, dans les étoiles et les éléments, la génération de la nature ne s'est pas pour cela transmuée entièrement dans la suavité sainte, telle qu'elle a été avant le temps de la colère, en sorte qu'actuellement, la génération de la nature soit entièrement sainte et pure. Non, mais elle reste dans son enfantement le plus âpre, le plus sévère et le plus angoisseux, dans lequel la colère de Dieu s'étend sans interruption, comme dans le feu infernal. Car si la nature, avec sa génération âpre, s'était changée en effet et entièrement en amour, selon la loi céleste, les démons seraient de nouveau dans le siège saint de Dieu. Ainsi, c'est ce que vous pouvez très bien voir et comprendre au pouvoir terrible de la chaleur et du froid, de même qu'au poison de l'amertume et de l'âpreté dans ce monde. Toutes choses qui sont dans la génération des étoiles, dans laquelle les démons restent captifs. Les étoiles sont seulement l'enflammement de la grande maison, car la maison universelle est engourdie dans la mort, ainsi que la terre. Attendu que la génération la plus extérieure est morte et engourdie, comme l'est l'écorce sur l'arbre, mais la génération sidérique est le corps dans lequel la vie intérieure s'élève. Or, dans son corps, il est entièrement âpre. Toutefois, le nouvel engendrement qui monte dans l'eau de la vie et qui perce au travers de la mort le rend doux. Cependant, il ne peut pas changer le noyau de la génération âpre, mais il s'engendre à part d'elle. Il garde en soi sa nouvelle vie sainte, et il perce au travers de la mort colérique, et la mort colérique ne l'atteint point. Maintenant, cet amour et cette colère ne font qu'un corps, mais l'eau de la vie est le ciel de séparation entre eux, en sorte qu'ainsi l'amour ne saisit et ne comprend point en soi la colère, ni de même la colère, l'amour. Mais l'amour s'élève dans l'eau de la vie, et il reçoit du premier et âpre engendrement la puissance qui est dans la lumière et qui est engendrée de l'ancien. Car l'ancien corps est engendré de l'ancien. Car l'ancien corps, qui est dans l'âpre génération, appartient au démon, comme son habitation, et le nouveau appartient au royaume du Christ. Maintenant, on se demande, les trois personnes de la divinité ne sont-elles donc pas, à présent, dans la génération de la douceur dans ce monde? Oui, elles sont toutes les trois dans ce monde, dans la pleine génération de l'amour, de la douceur, de la sainteté, de la pureté, et sont sans cesse engendrées dans la même substance et dans le même être où elles l'ont été de toute éternité. Voyez, Dieu le Père dit au peuple d'Israël sur la montagne du Sinaï, lorsqu'il leur donna la loi, « Je suis un Dieu sévère et jaloux pour ceux qui me haïssent. » Exode, chapitre 20, verset 5. Deutéronome, chapitre 5, verset 9. Or, de ce Père unique qui, ici, est à la fois sévère et plein d'amour, vous ne devez pas faire deux personnes, mais c'est un seul et unique Père qui engendre continuellement son Fils bien-aimé. Et de ces deux, l'Esprit-Saint procède sans cesse. Remarquez la profondeur dans le centre. Le Père est l'être unique qui lui-même est tout et qui, de toute éternité, engendre son Fils bien-aimé. Et dans les deux, l'Esprit-Saint a toujours été en explosion, là où la vie est engendrée. Mais la génération âpre et rude des sources esprits du Père, dans laquelle l'ardeur et la sévérité résident, provient sans cesse le corps de la nature, dans lequel existe la lumière du Fils, ou le cœur du Père, ce qui est insaisissable à la nature. Car dans la génération, la lumière est au milieu et est le siège de la vie. C'est là que la vie suave de Dieu est engendrée de toutes les puissances du Père, et dans cette même place ou dans ce même point, l'Esprit-Saint s'élève du Père et du Fils. Or, ces mêmes puissances du Père qui existent dans l'enflammement de la lumière sont le Père Saint et le Père Suave et la pure génération divine. Et l'Esprit qui s'élève là est l'Esprit-Saint, mais la génération âpre est le corps dans lequel cette vie sainte est perpétuellement engendrée. Toutefois, lorsque la lumière de Dieu brille au travers de cet engendrement âpre, alors il devient doux, et il est comme un homme sommeillant, dans lequel la vie se meut sans cesse, tandis que le corps est dans un doux repos. Or, l'enflammement a été aussi dans ce corps de la nature, car de ce même corps, les anges ont été aussi créés. Et s'ils ne s'étaient pas exaltés et embrasés dans leur audace, leur corps serait resté éternellement dans une douceur paisible et insaisissable. Comme dans les autres principautés des anges, hors de ce monde, leur esprit se serait sans cesse engendré dans leur corps de douceur, comme fait la Trinité Sainte dans le corps de Dieu. Et cet esprit inné ou inengendré n'aurait fait qu'un cœur, qu'une volonté et qu'un amour avec la Trinité Sainte, car ils avaient été créés aussi dans le milieu, dans le corps ou la circonscription de Dieu pour la joie de la divinité. Mais le souverain Lucifer voulait être lui-même le Dieu tout-puissant, et il enflamma son corps, ou sa sphère d'activité, éveilla en elle l'âpre génération de Dieu, et il se mit en opposition du cœur lumineux de Dieu, dans l'intention de régner sur lui par sa volonté impérieuse, ce qui cependant était impossible. Mais comme il s'enflamma et s'éleva contre la loi de la divinité, alors l'engendrement âpre s'éleva aussi contre lui dans le corps du Père et le prit prisonnier dans l'engendrement âpre comme un fils furieux. Et c'est là où est maintenant son éternelle souveraineté. Mais lorsque le Père s'enflamma dans le corps de l'âpreté, il n'enflamma pas pour cela la source sainte, où s'engendre son cœur plein d'amour, en sorte que, par ce moyen, son cœur dut se placer dans la source de colère. Non, cela était impossible, car l'engendrement âpre ne peut atteindre l'engendrement saint et pur. Mais celui-ci perce au travers de l'autre et s'engendre un nouveau corps qui subsiste de rechef dans la douceur. Et ce même nouveau corps est l'eau de la vie qui est engendrée quand la lumière traverse la colère. Et c'est l'Esprit Saint qui en elle est formateur. Mais le ciel est la séparation entre l'amour et la colère, et c'est le siège où la colère se transforme en amour. Or, lorsque vous regardez le soleil et les étoiles, il ne faut pas croire que ce soit le Dieu saint et pur, et vous ne devez pas vous proposer de leur rien offrir, ni de leur rien demander, car ils ne sont pas le Dieu saint, mais ils sont la génération âpre et enflammée de son corps, et en qui l'amour et la colère combattent l'un et l'autre. Mais le Dieu saint est caché dans son ciel, au milieu de toutes ces choses, et elles ne peuvent ni l'atteindre, ni le comprendre. Cependant, l'âme le saisit, et la génération sidérique ne le comprend qu'à moitié, car le ciel est la séparation entre l'amour et la colère. Ce même ciel est partout et aussi en vous-même. Quand vous priez le Dieu saint dans son ciel, vous le priez dans le ciel qui est en vous. Ce même Dieu perce par sa lumière au travers de votre cœur. Et, en elle, l'Esprit Saint, et il engendre votre âme pour être un nouveau corps de Dieu qui règne avec Dieu dans son ciel. Car le corps terrestre que vous portez ne fait qu'un avec la totalité du corps enflammé de ce monde, et votre corps inqualifie avec le corps entier de cet univers. Il n'y a aucune désunité entre les étoiles et l'espace, non plus qu'entre la terre et votre corps. Tout cela ne fait qu'un corps. La seule distinction qu'il y a, c'est que votre corps est comme un fils de l'universel, et il est comme l'être total lui-même. De même que le nouveau corps de ce monde s'engendre dans son ciel, de même aussi votre nouvel homme s'engendre dans son ciel, car il n'y a qu'un ciel dans qui Dieu demeure et dans qui votre nouvel homme demeure, et ils ne peuvent être séparés l'un de l'autre. Mais si vous êtes impie, alors votre engendrement n'est plus approprié au ciel, mais à la colère. Il demeure dans la seconde partie de la génération sidérique, où s'élève l'âpre et rude source de feu, et vous êtes enfermé dans la mort, jusqu'à ce que vous perciez au travers du ciel et que vous viviez avec Dieu. Car à la place de votre ciel, vous avez établi le démon de la colère. Mais si vous percez au travers, alors il faut qu'il s'éloigne. C'est dans ce même siège que l'Esprit-Saint règne, et le démon vous poursuit dans l'autre partie de l'âpreté, car c'est là son asile. Or, l'Esprit-Saint lui fait opposition, et le nouvel homme repose caché dans son ciel, sous la protection de l'Esprit-Saint. Le démon ne connaît pas le nouvel homme, car ce n'est pas dans sa maison qu'il demeure, mais dans le ciel, dans le firmament de Dieu. J'écris ceci comme une parole qui est cachée dans son ciel, là où la divinité sainte s'engendre sans cesse, où l'esprit bouillonnant s'élève dans l'éclair de la vie. C'est là que cette parole et cette connaissance sont engendrées et s'élèvent dans le feu de l'amour, au travers de l'esprit jaloux ou sévère de Dieu. Je sais bien ce que le démon a dans la pensée, car la partie de l'engendrement âpre et rude, dans laquelle l'amour et la colère sont en opposition l'une contre l'autre, le voit jusque dans le cœur. Ainsi, lorsqu'il se présente comme un adulateur, avec ses tentations puisées dans la région colérique et infernale, il se place avec ses fureurs dans la partie où réside l'âpre génération. Et là, le ciel est en opposition avec lui. C'est alors que cet ennemi se fait connaître, car il pointe au travers du vieil homme dans l'intention de perdre le nouveau. Mais quand le nouvel homme s'élève contre lui, alors l'infernale bête s'éloigne. Le nouvel homme reconnaît bien quel dessein la bête infernale a apporté dans l'engendrement sidérique, et il est temps de le nettoyer ou d'en faire la purification. Mais je trouve que c'est un démon très adroit qui m'est opposé. Il excitera des détracteurs qui diront que, par mes opinions particulières, je veux scruter la divinité. Mais vous, détracteurs, ne seriez-vous point de dociles enfants du démon? Avez-vous bien le droit de vous moquer des enfants de Dieu? Pourrais-je donc, par mes moyens, sonder aussi profondément dans la divinité, si la divinité ne sondait pas en moi? Ou bien, croyez-vous aussi que je sois assez fort pour lui résister? Oui, homme imprudent, mais chéri de moi, la divinité est un être tout à fait doux, simple et calme. Elle ne creuse point dans la base de l'enfer et de la mort, mais dans son propre ciel, où il n'y a qu'une universelle douceur. C'est pourquoi il ne me conviendrait pas non plus de porter si haut mes entreprises. Mais voyez, ce n'est pas moi qui ai ouvert cette voie, mais votre désir et vos vœux ardents ont excité la divinité à vous révéler dans une grande simplicité et dans une grande profondeur que votre cœur souhaitait, afin que ce fût un témoignage contre vous et une annonce terrible du jour de Dieu. Je vous dis ceci comme une parole du Dieu sévère qui est engendrée dans l'éclair de la vie.